Bonjour à tous, vous écoutez Nuit Américaine, Vive le Cinéma, votre émission de cinéma sur Aligre FM 93.1, préparée et présentée par Bernard Payen, réalisée par Alexandre Wilbrook, Darian Opitana, Luca Panture, Enrico Mastrogiovanni ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et j'ai le plaisir de recevoir Damien Manivelle pour son film Lille, actuellement dans les salles depuis mercredi dernier et à Paris dans une salle au Reflet Médicis pour deux séances quotidiennes, il ne faut pas les rater. Alors bon, c'est un film particulier, on va y revenir parce que c'était un film qui ne devait pas se faire et en toute logique, malheureuse, il n'aurait pas dû sortir quelque part. Et jusqu'au bout, ce film incarne, au-delà de ce qu'il raconte, au-delà de son propos, une forme de résistance au prêt à filmer, à une forme de système aussi, au marché, à la manière dont on fait les films et dont on les sort aujourd'hui. C'est un film qui célèbre aussi l'énergie de la jeunesse et je dirais aussi sa fragilité quelque part. Un film mélancolique sur l'éphémère, sur la force du moment présent qui n'adviendra plus jamais. Alors, on va bien sûr en parler, mais je voulais quand même rappeler pour tous ceux, toutes celles qui ne vous connaissent pas encore, Damien Manivelle, que Lille est votre sixième long métrage depuis déjà 9 ans. Mais ça fait déjà 17 ans que vous réalisez des films, puisque Viril, votre premier court métrage, était réalisé à l'école du Fresnoy en 2017, juste avant Sois sage ma douleur et l'arrivée en 2010 d'un film qui a tout changé dans votre parcours, La Dame au chien, qui a récolté énormément de prix, qui vous a valu l'intérêt de producteur pour développer alors un long métrage. Mais alors, un certain jour de juillet 2013, un coup de fil d'un garçon de 18 ans, Rémi Tafanel, a tout changé. C'était le jeune acteur de La Dame au chien et il vous propose alors de faire un film et vous le prenez au mot et vous partez à 7 avec une petite équipe. Et donc ça s'appelle Un jeune poète qui posera les fondements, les fondations de votre cinéma, une manière de procéder qui variera bien sûr en fonction des films et qui vous permettra aussi de tourner de manière soutenue depuis cette date en toute indépendance. Et c'est vrai que ce qui me frappait en revoyant un peu la filmographie comme ça, c'était cet intérêt qui n'est pas nouvelle avec Lille, que vous avez eu à travers plusieurs films pour la jeunesse d'un jeune poète à Lille, en passant par Le Parc, qui racontait la naissance et la fin d'une relation sentimentale de deux jeunes gens. Donc je me demandais, au-delà des films et au-delà des personnalités, qui ne sont pas les mêmes évidemment, quel était votre regard sur cette jeunesse depuis presque 10 ans? Est-ce qu'elle a changé pour vous, selon vous? Est-ce qu'elle est plus inquiète? Est-ce qu'elle continue de vous toucher? Ça, je pense que oui.
Bonjour.
Bonjour, Damien.
Bah, c'est une question hyper intéressante, mais je n'ai pas la réponse directement parce que j'ai plus 20 ans. Et je pense que moi, j'ai juste l'intérêt de travailler avec des jeunes et c'est un intérêt renouvelé, comme vous dites. Évidemment, j'ai travaillé aussi avec des gens d'âge différent et des gens moins jeunes. J'ai aussi beaucoup enseigné. J'ai enseigné pendant 20 ans à des classes de théâtre et de danse, donc des jeunes qui avaient entre 18 et 20 ans, et avec qui j'ai fait beaucoup de spectacles, en fait. J'ai mis en scène des spectacles. Et je pense que ce nouveau film, Un jeune poète, les films que j'ai faits autour de la jeunesse, sont aussi des produits, ou en tout cas une... font écho à ce travail que j'ai fait au théâtre avec des jeunes. C'est-à-dire que je me suis entraîné à co-créer ou diriger des jeunes d'une façon, je dirais, très proche, en essayant de comprendre comment ils fonctionnent, qui ils sont, quel est leur rapport à la danse ou à la comédie. Et donc, en fait, je ne peux pas vraiment avoir un regard sur la jeunesse qui soit... distancié ou objectif. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai des expériences de travail avec eux et que c'est dans le cadre du travail. Donc il y a toujours un tiers, il y a toujours un objet artistique à construire ensemble que je peux analyser et j'ai l'impression que... c'est dur à dire, en fait. J'ai l'impression qu'à la fois, c'est les mêmes et toujours les mêmes et en même temps qu'il y a cette inquiétude dont vous parlez, qui est très présente. Mais c'est vrai que dans le cadre d'un travail artistique, dans le cadre de la création d'un film, par exemple, comme Lille, moi, j'ai besoin de mettre tout ça le plus loin possible, même si c'est complètement illusoire. Parce qu'évidemment, on est traversé par tout ce qui se passe dans le monde et par tous ces questionnements. Mais non, pour moi, le temps d'un tournage ou le temps d'une création commune, c'est une forme utopique, c'est un moment en dehors du monde et où on cherche plutôt à aller à l'intérieur, pour ensuite faire rejaillir, mais on cherche plutôt à comprendre qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, on cherche des émotions, on cherche des intensités.
Alors, évidemment, on va reparler de tout ça. Je me dis aussi que Rémi Tafanel va bientôt avoir 30 ans. Ça fait bizarre d'y penser. Je ne sais pas si vous y avez songé. Est-ce que vous aimeriez peut-être continuer se poser la question, qu'est-ce que c'est un jeune poète à 30 ans?
J'ai toujours... on ne se voit pas souvent, mais j'ai de nouvelles, soit par les réseaux sociaux, soit de temps en temps, on se donne des nouvelles avec Rémi Tafanel, et donc j'ai fait 2 films avec lui. Ouais, ça serait intéressant. Après, c'est ce que je dis toujours, c'est que faut que les choses se fassent de façon... J'aime bien être surpris, être pris par accident. J'aime bien qu'un projet démarre sur une vraie nécessité. Une nécessité qui peut être un hasard de la vie ou une vraie nécessité intérieure. Il y a des projets que je porte déjà depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, des histoires que j'ai en moi mais que j'ai toujours pas tourné parce que le moment n'est pas venu. Donc on verra, mais ouais, il va bientôt avoir 30 ans et je suis content, il fait beaucoup de théâtre et un peu de cinéma, donc c'est chouette.
Cette idée de filmer l'éphémère dont je parlais en introduction, on la retrouve déjà dans vos films précédents. Cette idée de capter... quelque chose, je sais pas, par exemple d'Elsa Voliaston, quelque chose de Takara, par exemple, fixer un moment de leur vie, de leur être, à l'âge qu'ils ont au moment où vous les tournez, c'est quelque chose qui partit de l'émotion que vous recherchez en filmant.
Disons que c'est un peu étrange, mais quand j'écris un film ou quand je prépare un projet, j'ai un peu des balises comme ça, c'est-à-dire j'ai des choses qui... Je travaille de façon très intuitive, mais j'ai des choses très concrètes qui m'inspirent, pour le dire simplement. C'est beaucoup les lieux, et c'est beaucoup aussi l'âge des protagonistes. Penser à un âge, voilà. Pour moi, ça ouvre déjà tout un monde d'idées, des sensations, même si c'est un âge que j'ai pas encore vécu. Donc, par exemple... que ce soit Elsa dans Les Enfants d'Isadora, par exemple, ou dans Magdala, qui a donc 70-75 ans. Bon, mais penser que je vais construire ou co-construire un personnage de cet âge-là, ça m'inspire et ça me tient, en fait. Il y a des gestes qui arrivent, il y a des images, il y a des costumes, il y a une vitesse des mouvements, il y a un sentiment aussi qui peut venir directement d'un âge. Donc avec les lieux, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Et je sais que tant que j'ai pas trouvé... Là, par exemple, je suis en train d'écrire un film en ce moment et ça fait un an que je cherche l'âge des protagonistes. Et là, je l'ai trouvé récemment, en fait. Et je l'ai trouvé précisément. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Là, tout est venu... Il y a une forme d'évidence, en fait. Alors que pourtant, ça pourrait être, je ne sais pas comment travailler les autres, mais ça pourrait être pour un écrivain ou des cinéastes quelque chose qui vient assez naturellement. Mais pour moi, ça, c'est un vrai enjeu narratif fort.
Et c'est un âge précis pour le prochain film?
C'est Non, mais c'est une charnière, on va dire, entre 25 et 30. Mmh, mmh. Mais par rapport à l'histoire que j'ai construite, etc., quand j'ai trouvé vraiment cet âge, j'ai compris que tout s'alignait face à ça. Voilà, donc c'est un peu des... Il y a des choses en termes d'imagination, je dirais, de création que j'ai du mal à faire depuis toujours. Par exemple, j'ai beaucoup de mal avec le fait de trouver un prénom au personnage. J'ai toujours eu du mal avec ça, donc souvent dans mes films, et donc c'est le cas dans Lille, hein, les personnages ont toujours les prénoms qu'ils ont dans la vie, en fait. Ouais. Donc ça, étrangement, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Ça m'inspire pas, quoi, ça me parle pas. Par contre, l'âge, les lieux, ou éventuellement l'activité, le métier, c'est des choses qui peuvent que je peux réussir à imaginer et qui me portent après pour le projet.
Ouais. Et c'est vrai que on pourrait y revenir, mais déjà c'est pas anodin d'avoir des films qui portent des noms de lieux comme le parc ou l'île, enfin mm-hmm. c'est cette idée là et puis c'est vrai que dans Un jeune poète c'était la ville, c'était Sète, dans Magdala c'était les Monts d'Arrée aussi, j'imagine qu'a été un lieu
ouais, la forêt, les Monts d'Arrée,
la forêt mm-hmm. des Monts d'Arrée notamment, ouais, qui était important, et c'est vrai que c'est ça qui décide aussi de du reste, même si après on peut parler des micro-lieux pour une scène, en fait, d'un décor précis pour une scène.
Ouais, tout à fait. En fait, pour Un dimanche matin, c'était la banlieue parisienne. Donc à chaque fois, j'ai un... Ou le parc, bien sûr, un parc, mais... C'est un peu pareil. J'ai besoin de trouver le lieu. Et une fois qu'il est trouvé, c'est pareil. Il y a une évidence, en fait. Une évidence. Soit c'est un lieu avec lequel j'ai... c'est un lieu que j'ai arpenté ou que j'ai connu, ou ça peut être la banlieue de mon adolescence. J'ai besoin de me raconter des histoires, en fait. J'ai besoin qu'il y ait un lien, je dirais, émotionnel, physique au lieu. Soit c'est des lieux que je choisis, et ensuite j'ai besoin de créer ce lien intime avec le lieu. Et ça passe par repérage et par passer beaucoup de temps dans le lieu, à l'observer, à prendre des photos, et ensuite beaucoup de temps chez moi à regarder ces photos, à y penser. Donc j'ai toute une méthode préparatoire, je dirais, où en général, alors là on en parlera pour Lille, mais en général dans mes films je fais jamais de répétition. Ça j'y tiens très fort, à ne pas faire de répétition, parce que j'ai envie que les répétitions soient incluses dans la matière filmique et que je puisse éventuellement les utiliser dans le film. Ce que je fais dans quasiment tous mes films. Mais par contre, j'ai un grand travail de préparation avant, des mois et des mois, où je pense beaucoup aux acteurs que je vais filmer. Je pense aux lieux que je vais filmer. Et c'est un travail que j'adore faire et qui est très flottant. C'est pas du tout... Là, pour le coup, c'est pas de l'écriture. C'est pas je me mets trois heures à ma table et j'écris. C'est j'y pense. J'y pense quand je marche dans la rue. J'y pense... Et un peu comme des exercices méditatifs comme ça, où je pense à la personne et je me dis, mais tiens, si je la filmais de dos, et je m'entraîne, et à un moment, je sens que c'est là. Et c'est très étrange. Et pour vous donner un exemple, tout à l'heure, je prenais le RERB pour venir, et en fait, ils ont changé depuis mon adolescence, ils ont changé les rames, en fait, c'est pas les mêmes trains. Et moi j'étais très très attaché aux rames de l'époque et c'est un train que j'ai beaucoup envie de filmer depuis des années, et j'ai toujours eu envie d'y situer un film dans le RERB, mais quand ils ont changé les trains j'étais dégoûté, parce que je me disais, j'ai trouvé ça moche et je me disais je vais pas réussir à le filmer. Mais ils ont changé les trains il y a peut-être 15 ans quoi, ou 10 ans. Et au fur et à mesure, il y en a de plus en plus, ces trains modernes. Les couleurs sont criardes à l'intérieur. Et j'aime pas du tout. Et je me suis dit, je suis dégoûté, je vais pas pouvoir filmer le RERB. Et donc, depuis 10 ans, je me dis, il va falloir que je trouve un autre train. Alors qu'en fait, ce que je veux raconter, ça se passe dans le RERB. Et là, ce matin, en prenant le RER, j'ai regardé la rame, les gens et les sièges un peu plus vieillis, un peu plus abîmés. Mais toujours les mêmes couleurs criardes. Et je me suis dit, ah, c'est bon. Je peux le filmer maintenant. Je saurais filmer ces couleurs et ce train.
Et pourquoi ? Parce qu'il y a une patine ou
Non, parce que je m'y suis
habitué.
Ça s'est déposé, en fait. Ouais. Je m'y suis habitué. J'ai appris à accepter, et peut-être j'ai appris à me le mettre dans le corps et dans les yeux, quoi. Et donc là, je sais que si je dois tourner des plans dans ce train-là, je saurais le faire. Alors qu'il y a 5 ans, c'était impossible.
Mais je suis demandé, ouais, c'est très, ouais, mais c'est intéressant. Je suis demandé d'ailleurs pourquoi, enfin, ça faisait longtemps, en fait, que quasiment depuis Un dimanche matin, même s'il y avait des plans de ville dans Les Enfants d'Isadora, que vous n'aviez pas refilmé la ville depuis longtemps.
Bah, justement, je l'ai filmé dans la dernière partie des Enfants d'Isadora. Il y a toute une déambulation dans la même banlieue que Un dimanche matin, qui était un court-métrage que j'avais fait en 2012. Et il y a le train, il y a les RER, il y a toutes ces rues. Mmh. Et c'est mon décor préféré, clairement. Je pense que j'envisage mon prochain film dans ce décor-là. C'est peut-être aussi pour ça que là, il y a des choses qui bougent dans ma tête. Mais,
Parce que c'est celui de l'enfance ?
Ben non, c'est pas celui de l'enfance, c'est celui de l'adolescence.
L'adolescence.
Ouais. Mmh. l'adolescence, je pense que c'est là où quelque chose s'est peut-être passé artistiquement peut-être pour moi, une ouverture à... J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs dans ces lieux-là. Énormément d'histoires à raconter qui se passent dans ces lieux-là. Enfin, je ne sais pas expliquer, en fait. Puis c'est tellement cinégénique. Il y a un rapport entre la nature et la ville, le caractère urbain. Je trouve tout très beau et tout très émouvant. Et j'aime autant les regards des gens, les visages, la mixité. La banlieue d'où je viens, c'est une banlieue plutôt aérée, entre guillemets. C'est les Hauts-de-Seine. Mais tout m'inspire. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est dur à expliquer, mais c'est un lieu que j'ai envie de filmer et refilmer. Ouais.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Vas-y, passe. Vas-y, tire-toi, Youn, et hop, elle te fout de
tout. Il faut qu'il se tire assez vite. Donc, qui a quoi dans ce film?
Attends, je peux prendre une petite photo de toi,
ouais.
Vas-y.
Ah, de ouf. Oh, t'es trop belle.
Ouf.
Magnifique.
C'était la dernière soirée de l'été. La veille de mon départ à Montréal, on avait décidé de continuer la soirée sur l'île.
Je suis tout de suite tombé amoureux de toi.
Je suis tout de suite tombé amoureux de toi.
Laissez-vous.
Hi, baby. Yorona, Yorona, Yorona. Tu eres mi chunca. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores.
Ah, oh, super. Et là, tu récupères. Et tu marches un peu comme ça.
C'était la dernière soirée de l'été. Avec mes amis Olga, Damo, Ninon, Céleste, Jules et mon frère Youn.
Vous écoutez Nuit américaine, Allegre FM, Vive le cinéma. Nous sommes en compagnie de Damien Vanivelle. On vient d'écouter la bande-annonce de Lille, le film qui est déjà sorti. Vous pouvez voir notamment au Reflet Médicis à Paris. Parlons un peu de la jeunesse de ce film particulier. L'envie au départ, c'était... Alors c'est vrai que c'est toujours, j'imagine, intéressant dans un parcours cinématographique de penser les films, peut-être pas les uns contre les autres, mais en tout cas après un film comme Magdala, en tout cas... de vouloir filmer quelque chose de totalement différent, et en l'occurrence un groupe de jeunes. C'est ça l'idée, aussi pour, j'imagine, pas s'ennuyer, ou pas, en tout cas, passer d'un univers à l'autre. C'était cette envie-là, initiale.
Ouais, alors il y avait plusieurs envies qui sont venues au même instant, on pourrait dire. Donc il y avait l'envie que j'ai depuis longtemps de filmer un groupe, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'avais envie de faire un projet avec un autre processus de création, pas passer par un texte, même si j'avais quand même écrit un texte, mais plutôt passer par une écriture de plateau, donc réunir des acteurs et écrire ensemble, en tout cas avoir leur collaboration. Et ça, forcément, j'ai eu envie de le faire avec des jeunes, parce que il y a un truc qui fait sens, en fait. Eux, c'est leur première expérience de tournage, leur première expérience de création pour la plupart. Plein d'énergie, plein d'envie. Et puis, un moment charnière comme ça pour ces jeunes, en fait, qui sont en train de devenir adultes. Et j'avais envie de me confronter à ce groupe et en même temps de me dire, OK, on va se mettre 2 semaines en Bretagne sur une plage. Et est-ce qu'on est capable de construire un long métrage comme ça en 2 semaines? Et mon idée de départ, c'était de faire un film qui serait un seul plan séquence, donc un seul plan, et créer ça avec eux, un peu comme j'ai créé des spectacles avec des jeunes pendant des années. Donc c'est pas tant l'idée de pas m'ennuyer, parce que il y a des projets, mais plutôt de casser peut-être des éventuels automatismes, d'être confronté à une altérité, travailler peut-être dans un processus un peu plus collaboratif, pour le coup là en construisant ensemble pendant 2 semaines un film, une écriture, et voilà, c'était vraiment ça l'idée, quoi. Donc il y avait aussi l'idée d'une joie, d'un plaisir de la création que j'ai toujours besoin de garder vivant, parce que sinon il y a toujours besoin de trouver un rapport entre, je dirais, la souffrance de l'écriture et du travail et le plaisir, en fait. Il y a toujours cet équilibre qui est difficile à tenir, à manœuvrer, mais j'essaye, quoi.
Et les difficultés aussi de tourner dans une économie petite, qui pose parfois des problèmes, qui fait qu'on décuple l'énergie, en tout cas pour arriver au but.
Bah, c'est paradoxal, parce que il y a beaucoup de défauts à tourner si petit et à ne pas avoir d'argent. Et en même temps, ça je l'ai expérimenté, il y a aussi des avantages. Mais pour moi, d'une certaine façon, même si je vais sans doute faire des projets plus lourds, plus gros, j'ai toujours besoin d'avoir des projets petits et d'expérimenter des formes de création. Pourquoi ? Parce que je redoute très fortement le jour où faire des films sera quasiment plus possible, et je pense que ce jour approche à grands pas. Donc j'ai besoin de trouver des solutions, en fait. J'ai besoin d'expérimenter des méthodes de travail pour être sûr que dans le cas où je n'ai vraiment plus d'argent, je serai toujours capable de continuer à faire des films. Et ça, c'est une recherche, et c'est aussi pas une sécurité, mais j'ai un rapport tellement intime à la création que ne plus pouvoir tourner, c'est... je ne sais pas si j'en serais capable. Donc en fait, j'expérimente aussi des méthodes de travail qui me permettent de dire, de me calmer, de dire, ok, même si dans 20 ans, on ne veut plus me donner d'argent, je serai quand même capable de continuer à faire des films.
C'est vrai que cette habitude, elle s'est constituée déjà depuis presque 10 ans, enfin depuis 9 ans, parce que mine de rien, 6 films en 9 ans, c'est pas mal.
Ouais, ouais.
D'autres cinéastes n'ont pas cette...
Ouais, ouais, bien sûr. Après, ça part d'une nécessité, clairement. Et voilà. Et je pense que chacun a un peu son tempo, sa méthode et son impatience. Moi, je considère déjà que tourner une fois tous les 1 an et demi ou 2 ans, c'est déjà long, en fait. C'est déjà un temps qui est nécessaire pour mûrir, pour construire le film, etc. Plus longtemps, je trouve que ça peut être un peu compliqué moralement, je dirais, pour moi. J'ai besoin d'être confronté à des gens, j'ai besoin de les diriger, j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin de donner, j'ai besoin que ça bouge. Donc après, c'est à chaque fois des films dans des budgets extrêmement restreint, et voilà, c'est de plus en plus difficile de faire exister ce genre de cinéma, mais bon, voilà.
Pour revenir à la jeunesse de Lille, c'est vrai qu'au bout d'un moment, entre le moment où il y a eu des répétitions, pour le coup, on va revenir là-dessus, et puis le moment où vous deviez vraiment tourner, c'était vraiment à la fin de l'été, enfin, je crois que la répétition c'était au moins en début de l'été, juin-juillet, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, les répétitions c'était fin juin, début juillet, et donc je devais après, avec toute la matière que j'avais, etc., réfléchir pendant l'été à un scénario, enfin, à améliorer l'histoire qu'on avait écrite. Et surtout faire la préparation du tournage qui devait avoir lieu fin août, début septembre.
Et là, l'argent a manqué et le projet a été interrompu. Et l'idée, ça a été quand même... Enfin, c'est Martin Vertier qui est votre associé en production, qui vous a encouragé à revisiter un peu tous ces rushs et d'explorer ce disque dur et de voir s'il n'y avait pas un film. Et il y avait effectivement un film. Et je voudrais revenir un peu à la période des répétitions. Effectivement, vous le rappeliez, c'est quelque chose que vous ne faisiez pas précédemment, mais là, c'était particulier parce que c'était un groupe. Donc, j'avais envie juste qu'on parle de ça, de qu'est-ce que c'est que de filmer un groupe et comment on s'y prend déjà pour le constituer. Là, c'était aussi l'idée d'aller à la rencontre de jeunes qui étaient déjà habitués à la danse, en tout cas qui pouvaient faire des propositions de cet ordre-là. C'était ça aussi les envies. Et...
Ouais, bah, ce que j'avais... Alors, il y en a certains que je connaissais dans le groupe. Hein. Il y a Youn et Rosa qui sont mes voisins. Ouais. Voilà. Donc, ils sont un frère et une sœur et ce sont mes voisins. Youn et Rosa Berder. Il y avait Céleste Duménil qui est une ancienne étudiante à moi, une ancienne élève en théâtre. Et le reste, je les ai rencontrés à l'audition. Et en fait, l'audition, j'avais demandé qu'on m'envoie une vidéo d'une minute où on raconte un souvenir mémorable de soirée. Et aussi, je cherchais des gens qui s'intéressent à la danse. Alors, je ne cherchais pas forcément des danseurs professionnels ou des gens qui ont une technique de danse parfaite. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer des jeunes qui n'aient pas froid aux yeux, qui aient envie d'improviser... qui a un plaisir du mouvement, en fait, qui a un plaisir de bouger. Mais ce n'était pas pour filmer de la danse, c'était pour avoir des partenaires créatifs, je dirais. Quoi. Donc, j'ai fait cette audition à Paris, et je les ai rencontrés, et ensuite, donc ils ne se connaissaient pas, hein, donc les sept personnages, les sept acteurs du film, actrices, ils ne se connaissaient pas. Et en fait, je les ai mis dans une situation telle d'intensité de travail et de proximité, ils dormaient ensemble dans les mêmes chambres, etc., que fatalement, ils ont commencé à faire leur propre soirée, à se rapprocher, et je dirais, en quelques jours, ils étaient super potes, et ils le sont encore aujourd'hui après le film. Donc, c'était intéressant, parce que filmer un groupe, il fallait que je leur laisse du temps pour eux aussi, en dehors des répétitions, et il fallait que je sois moins, je dirais, directif, ce que je peux être sur mes autres films. Parce que ce qui m'intéressait, c'était l'énergie et la beauté d'une amitié. Donc, si je leur laissais pas le temps de vivre cette amitié, de la construire, il allait rien se passer, j'allais rien pouvoir filmer, en fait. Et en fait, j'étais aussi... Alors, on le voit dans le film, parce que je suis dans le film, mais on me voit les diriger et... Je suis aussi plus... Pas plus bordélique, mais un tout petit peu plus lâche. Je laisse un peu plus de choses que d'habitude. Ou quand je tourne, je suis un tout petit peu plus directif. Là, évidemment, je suis toujours derrière, mais il y a une scène... Il y a des scènes où je les chauffe beaucoup, en fait. Je suis un peu comme un coach, quoi. Je les chauffe, j'essaye qu'ils donnent tout. J'essaye de la mettre dans une certaine situation où ils vont se mettre à délirer, à faire semblant qu'ils sont bourrés, qu'ils dansent, et je cherche aussi à ce qu'ils se disent des choses avec le cœur, des choses extrêmement intimes, touchantes. Mais je le fais avec une sorte de retrait, parce que j'ai besoin que ce soit eux qui prennent le pouvoir, entre guillemets, que ce soit eux qui existent dans le film.
Est-ce qu'il y avait dès le départ l'idée que Rosa allait se détacher un peu du groupe, ou c'est quelque chose qui s'est construit au montage ?
Alors non, il y avait l'idée dès le départ qu'il y ait un personnage principal autour duquel gravite cette histoire. Donc c'est l'histoire d'un départ, hein, d'une séparation entre Rosa et son groupe d'amis très chers. Mais je ne savais pas que ce serait Rosa. Ce n'est pas quelque chose que j'avais forcément prévu. C'est quelque chose qu'on a décidé, je crois, le premier jour. Avec Julien Dieudonné, donc, qui est mon acolyte, co-scénariste dans cette histoire. Je pense que ça s'est décidé le premier jour, comme un peu comme une évidence, parce qu'on a senti que Rosa prenait une place naturellement dans le groupe, de une place importante, une place un peu, je dirais, presque maternelle vis-à-vis des autres, qui avait un respect tout de suite. Vis-à-vis d'elle, et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant que ce soit elle qui...
Et ça s'est vu le premier jour.
Ouais. En fait, je l'avais déjà vu aux auditions. J'avais déjà vu aux auditions. Et on avait déjà parlé avec mon équipe, on s'était déjà dit, tiens, c'est marrant, ils viennent spontanément vers elle, il y a quelque chose qui... Il y a une présence rassurante. Donc, la faire quitter le groupe, c'est très intéressant parce que ça veut dire que le groupe va se démanteler, que le groupe va se perdre si cette figure s'en va.
Elle consolide.
Ouais, tout à fait. C'est comme ça que ça s'est choisi.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Toujours à l'écoute de Nuit Américaine, Vive le cinéma, sur Aligre FM 93.1 avec Damien Manivelle, réalisateur de Lille. On vient d'écouter Chavela Vargas, La Llorona. Pourquoi ? Parce que dans le film, une des personnes du groupe, une des jeunes femmes du groupe, entonne cette chanson. C'est venu comment d'ailleurs cette, c'est...
Je les observais, je voyais qu'ils chantaient beaucoup. Le soir ou les uns avec les autres. Et donc ça m'a donné l'envie qu'il y ait une chanson dans le film. Donc là, la chanson se passe vraiment à l'aube, sur la plage. Et en fait, dans une improvisation, Céleste s'est mise à chanter. Et elle s'est mise à chanter cette chanson. Donc c'est sa proposition. Après, ça fait extrêmement écho avec le film, avec ce départ. Ça parle d'une femme qui pleure et qui s'en va. Donc ça fonctionnait, c'était son idée. Donc c'est un bon exemple de ma méthode de travail, je dirais, sur ce film. C'est que les idées venaient au fur et à mesure Et il y avait une force de proposition du côté des jeunes qui était... Et tout de suite, c'était juste, en fait, parce qu'elle était connectée à l'émotion du film.
Et c'est d'autant plus intéressant que, bon, la Llorona, c'est celle qui pleure. Il y a cette phrase que vous dites dans le dossier de presse du film qui m'interpelle par rapport à tout votre cinéma, qui est une question transversale. Que faire du chagrin et comment le transformer? Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient, cette question.
Ah oui, totalement. Ouais. Après, c'est pas quelque chose de... Comment dire? Bon, là, j'ai fait pas mal de films, donc c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure. Mais c'est pas... Je me suis pas dit je vais faire ces films pour parler du chagrin et de sa transformation en art ou en autre chose ou en beauté, mais j'ai remarqué que chacun de mes films à sa façon, que ce soit des films plus légers ou plus graves, traitent tous cette question là en fait. Que ce soit Takara qui fait un dessin pour son père et qui cherche à lui apporter, que ce soit Rémi dans Un jeune poète qui cherche à écrire des poèmes pour s'inclure dans le monde, pour se sentir en faire partie. Les enfants d'Isadora, bien sûr, qui racontaient un deuil. Où là, ce départ, il faut ce départ de Rosa, il faut faire la fête jusqu'au bout, il faut boire, il faut fumer, il faut tout se dire, il faut danser, il faut bouger, il faut vraiment y mettre ses dernières forces dans cette soirée pour conjurer le sort et pour faire quelque chose, pour peut-être construire un souvenir finalement de ce départ et de cette séparation. Et donc je pense que tous mes films parlent de ça.
Il y a un aspect making-of puisqu'on vous voit effectivement en train de diriger. On est frappé aussi par cette précision voulue du geste, cette idée que il faut diriger précisément ces jeunes gens par le geste. Enfin, il y a quelque chose qui part d'eux qui est naturel et en même temps qu'il faut contrôler, qu'il faut diriger. Ça, c'est quelque chose d'important dans votre méthode de travail.
Pour que les auditeurs comprennent bien, une fois que le projet a été abandonné, donc, parce que le tournage n'en a pas eu lieu pour faute d'argent, enfin manque d'argent comme on disait tout à l'heure, j'ai dû donc construire ce film, raconter cette histoire coûte que coûte, avec ce que j'avais à ma disposition, donc dans ce disque dur. Il se trouve qu'on avait filmé toutes les répétitions, donc j'avais les rushs de travail dans des salles de répétition, sur la plage, la nuit, à l'aube. J'avais des dessins, des enregistrements audio de nos réunions qu'on faisait le matin pour brainstormer et réfléchir aux personnages et aux films. J'avais des photographies, enfin bref. Je me suis dit, avec tout ça, je vais raconter cette histoire coûte que coûte. Donc forcément, on voit l'équipe dans le film, on entend ma voix, on me voit aussi de temps en temps. Donc ça, c'était pas évident comme choix. Et du coup, ça dévoile un peu l'envers du décor et la fabrique. Et ça, il a fallu l'assumer. Il a fallu que je c'est pas une évidence pour moi. Et en même temps, tous mes tournages ressemblent à ça. C'est-à-dire que il y a toujours, je parle toujours pendant les prises, j'essaie de diriger les gestes des acteurs, etc. Donc là, on voit cette question-là, et c'est ce qui m'intéresse par rapport au cinéma, c'est que il y a des gens qui ont vu le film qui me demande comment est-ce qu'on a pu trouver ce naturel, en fait. Cette intensité, ce naturel. Il y a deux réponses. La première, c'est que quand ils tournaient, on leur demandait une telle intensité. Même l'équipe, toute petite équipe qui était autour, on était tous tellement concentrés vers le même objet, vers la même émotion, en fait, qu'on cherchait, que cette intensité, elle est tout le temps présente. La nuit, on faisait des plans d'une heure et demie où il filait, en fait, il traçait l'ensemble du film en plan séquence, se baigner, s'engueuler, faire l'amour. Enfin, il vivait tout en une heure et demie sans arrêt. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui a créé cette intensité, ce naturel. Et paradoxalement, l'autre chose qui fait qu'on trouve ce naturel, c'est qu'on travaille chorégraphiquement, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur le geste et qu'on travaille justement à comment retrouver le naturel à partir d'une artificialité, à partir d'une direction sur les gestes, notamment la vitesse des gestes, les positionnements des mains, des corps, la vitesse, la précision du presque dansé du geste. Et donc c'est par l'artificialité, par la chorégraphie, qu'on peut retrouver un endroit qui a l'air naturel pour les spectateurs quand il est filmé, mais qui n'est pas naturel pour les acteurs quand ils le font, en fait. Donc il me disait tout le temps, pourquoi tu nous demandes d'être lent, pourquoi il faut qu'on soit lent, etc. Et là, ça c'est Jules Danger, qui est un des acteurs du film, qui m'a dit ça après. Il me dit, c'est fou, parce que quand on tournait cette scène, donc c'est une scène où il raconte un souvenir d'enfance avec Rosa, tu nous disais toujours d'être lent, et c'était chiant, parce que ça me paraissait pas du tout naturel. Et en même temps, quand j'ai vu le film, j'ai compris. Et en fait, dans le film, ça semble extrêmement naturel, c'est juste ça augmente l'intensité du moment, ça augmente son intimité, son intensité et son émotion. Mais moi, je savais qu'il y aurait de la musique à ce moment-là. En tout cas, je savais que ce que je cherchais, c'était musical. Et je savais quelle musique j'allais mettre. Et quand il a vu dans le film, avec la musique et la lenteur des mots et des gestes, etc., il a compris ce que je cherchais. Donc il faut passer par l'artificialité et la chorégraphie pour arriver à trouver un naturel. En tout cas, c'est ma méthode. Mais...
Et la musique, c'était une musique que vous avez composée pour le film. C'était une première aussi.
Ouais.
Et est-ce qu'elle était diffusée pendant les répétitions ou
Alors, on travaillait sur une musique qui n'était pas la musique que j'avais composée, qui était une musique d'ambiante, en tout cas une musique faite avec des boucles comme ça, très lancinante, très mélancolique, assez triste. Mais je savais qu'après, je la remplacerais par une musique que je composerais moi-même. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, une fois que j'étais en montage, pendant le montage, j'ai composé la musique pour le film, et oui, c'était la première fois, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, ça m'intéressait beaucoup de... Le film est si personnel, j'ai fait le montage, je l'ai montré quasiment à personne, c'était vraiment un geste extrêmement personnel, et du coup, je me suis dit, mais autant que je fasse moi-même la musique, parce que on est quasiment dans, même si ça raconte pas mon histoire, il y a quelque chose de presque de l'ordre du journal intime. Et il fallait que toutes les couches soient... il fallait que je me dévoile par la forme et par ces couches. De la même façon, j'ai inclus mes dessins de travail, de storyboard dans le film. C'était très important pour moi. Je ne sais pas si pour le spectateur c'est important, mais pour moi, c'était en tant qu'artiste, quoi, c'était important d'être présent, d'être très présent dans toutes les couches du projet. Et de me dévoiler d'une certaine façon.
On parlait tout à l'heure de l'adolescence, et c'est vrai que j'ai l'impression que l'île est très connectée aussi à votre adolescence, dans le sens où j'ai appris que vous filmiez des parties, enfin des booms, enfin je sais pas comment on pourrait...
Des soirées.
quand vous étiez adolescent, pour garder justement une trace de ça. Quelque part, c'est ça aussi qui a dirigé Mathieu Godet, qui est votre chef opérateur, en tout cas celui qui cadrait toutes ces arabesques sur la plage et pendant les répétitions, et avec cette idée de ne pas être trop en avant sur le groupe, justement sur leurs gestes et sur leur comportement.
Ouais, c'est ça. Donc, j'ai plein de mini-DV dans un carton chez moi des soirées de nos soirées d'adolescents, voilà, mais c'est des soirées extrêmement arrosées et des gros délires, mais je sais pas pourquoi je l'ai filmé, en fait. Enfin, je sais que je l'ai filmé parce que je m'étais acheté un caméscope pour filmer mes entraînements de danse et d'acrobatie, ce que je faisais à l'époque. Avec mon meilleur pote, on se filmait, on s'était acheté un caméscope. Et du coup, vu qu'en général, les entraînements étaient suivis par des soirées, avec nos potes et tout, j'avais le caméscope dans mon sac et du coup, je filmais. Et c'était très bordélique, mais absolument pas utilisable en quoi que ce soit. Mais il y avait ce geste de filmer quand même, et je m'en suis souvenu. Et c'était effectivement mal filmé. Mais il y a une émotion là-dedans, en fait. Donc il a fallu qu'on accepte avec Mathieu cet amateurisme, je dirais, ce côté tremblant, ce côté très, très dans l'instant, pour trouver une façon de filmer qui soit juste, en fait. Des façons de filmer plus pensées, plus maîtrisées, on a testé, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas avec la musique, ça ne marchait pas avec les ados, et ça ne me procurait pas d'émotion, en fait. Donc il a fallu qu'on aille contre notre désir de maîtrise.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous écoutez aussi Nuit américaine, Vive le cinéma avec Damien Manivelle pour Lille. Et je voudrais qu'on parle d'un aspect aussi du travail dont on ne parle pas souvent dans votre cinéma, qui est le travail du son. Parce que depuis quasiment, je crois, un jeune poète, vous travaillez avec Jérôme Petit, Simon Apostolou, qui sont vraiment les deux piliers du son. Pour ce film-là, c'était quoi aussi l'idée? Il y avait, parce que ça pose aussi des questions, déjà la prise de son, d'enregistrer un groupe. C'est pas du tout pareil, ça pose plein de questions. Il y a aussi toute l'étape du montage son qui est très importante chez vous. Enfin, je me souviens de tout le travail d'Agathe Poche sur Magdala qui était très important, sur la sensorialité, sur le rapport à la nature.
En fait, j'ai beaucoup changé de méthode par rapport au... Enfin, on a beaucoup changé de méthode parce que quand on bosse avec Jérôme, voilà, on bosse ensemble depuis très longtemps. Au début, j'étais très... on refaisait beaucoup au montage son, en fait. On refaisait les scènes. J'étais très attaché aux détails. Je voulais vraiment que chaque détail dans l'image puisse... donc ça, on le sent bien dans Un jeune poète ou dans Le parc. Vraiment sentir tout dans le détail. Donc, un travail énorme, vraiment, de détails, de recréation de son. Je me suis un peu détendu avec ça sur les films d'après. J'ai plus laissé la main, je dirais, à Jérôme, à Agathe sur Magdala... Et je me suis plus ouvert à leur proposition et à leur richesse et leur imagination, quoi. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Et là, Lille, bah, on est vraiment à l'extrême opposé dans un certain sens, parce que donc en fait, vu que pour moi c'était pas un tournage et que c'était des répétitions, il n'y avait pas de preneur de son pendant les deux semaines. Donc en fait, il y avait juste un micro-caméra, donc le son était vraiment horrible. On entend le vent dans le micro, on entend le souffle du chef opéra de Mathieu, puis la qualité est mauvaise. Et en fait, dès que j'ai commencé à monter le film, à monter ces images, j'ai tout de suite compris que c'était beau en fait. Que toutes ces scories, toutes ces choses que d'habitude il n'y a pas dans un film, le vent dans le micro, les histoires de niveau, de balance, de souffle, hein, des choses qui sont pas... que d'habitude on va... C'est des artefacts, quoi, c'est des choses que normalement on ne va pas mettre dans un film, quoi. Et en fait, il y a une émotion de ça, parce que ça raconte complètement notre application, notre amateurisme, notre intensité... Et ça crée une émotion. Donc j'ai dit surtout à Jérôme, tu gardes, quoi. Surtout ça, c'est... Ne cherche surtout pas à rendre les choses plus propres. Parce que non, il faut au contraire qu'on parte de ça. Mmh. Et ce qui est intéressant au niveau sonore dans le film, c'est qu'on part de ça, de ces choses. Donc on met le spectateur dans un endroit où il faut qu'il accepte une image un peu tremblante, des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des films. Mais pour l'amener dans des moments lyriques, dans des moments élégiaques, où la musique est presque... comme une musique sacrée d'une certaine façon, quoi, qui prend tout le son, toute l'image, etc. La voix off aussi, il y a des moments très artificiels comme ça, extrêmement précis rythmiquement. La voix off, j'y ai passé un temps fou à trouver à la seconde près le moment où il fallait l'attaquer, etc. Et les bonnes intonations chez Rosa. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a cet écart entre l'amateurisme le plus total, dans un certain sens, l'artisanal, et quelque chose d'extrêmement construit, d'extrêmement produit, de très beau, de lyrique. Et ça, c'est ce que fait le film. Et le film nous entraîne comme ça dans des vagues d'émotions formelles aussi, je dirais. Il y a une émotion formelle, quoi. De mêler quelque chose de... Il y a des images extrêmement belles dans le film, très colorées, à l'aube, très travaillées. Et en même temps, il y a des images dans un studio de répétition qui sont où la lumière, la balance de lumière est mal gérée, enfin... C'est très beau, en fait, de mélanger les deux. C'est presque un manifeste, d'une certaine façon, parce qu'il y a... Je dis... voilà, dans ce film, en fait, on peut embrasser toutes ces matières et en fait, c'est pas... Dans le fond, il y a une forme. Mais dans le fond, c'est pas la belle image qui compte. C'est pas le bon son qui compte. Dans le fond, ce qui compte, c'est l'énergie, l'intensité que mettent tous ces gens à fabriquer ça. Et à chercher à le transmettre, une émotion, en fait. C'est ça qui compte.
Et tout le pari, c'était aussi de faire cohabiter ces deux espaces, l'espace de l'espace clos et l'espace de la plage. Et parfois, ce qui est passionnant, c'est de voir comment devient une scène entre les premières répétitions du matin et ce qu'elle devient le soir sur la plage.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans le processus de montage qui a duré 3 mois à peu près, où vous vous êtes dit, ben là, oui, je sens quand même qu'il y a un film. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, une bascule?
Mais dès le premier jour.
Dès le premier jour.
Dès le premier jour. En fait, j'étais à l'étranger au moment où j'ai eu l'idée, au moment où Martin m'a dit « vas-y, fais quelque chose ». Et je n'arrêtais pas de penser à ce projet abandonné, en fait. J'en rêvais la nuit, je rêvais que j'étais en tournage. Donc, je n'arrivais pas à lâcher, quoi. Et Martin m'a appelé, m'a dit bah, « tiens, essaye quand même de faire quelque chose ». En fait, l'après-midi même, j'ai vu le film, en fait. L'après-midi même, je me suis dit « mais oui, mais évidemment, je vais tout réutiliser ». Je vais raconter cette histoire coûte que coûte. Je ne savais pas sur la durée. Je me disais, ça pourrait durer une demi-heure, 20 minutes. Sur la durée, je ne savais pas. Mais je me disais, je m'en fiche, en fait. Moi, ce que je veux, c'est... Je vais essayer. Et j'avais cette intuition très forte de m'affranchir des repères spatio-temporels, en fait. Et de raconter linéairement cette dernière soirée, de voir si ça marche. Et ensuite, je suis rentré en France. J'ai ouvert le disque dur. Heureusement, je ne l'avais pas jeté. Parce que je pense que j'étais tellement énervé que j'aurais pu le jeter. Mais je l'avais mis dans le fond d'un tiroir et je l'ai rouvert. Et tout de suite, j'ai testé ça. J'ai tout de suite testé, j'ai allumé l'ordi, j'ai testé cet affranchissement des repères spatio-temporels, c'est-à-dire passer du jour, la même scène, mais le jour dans une salle de répète, à l'aube, à la nuit, au lendemain, en plein jour, plein soleil, mais la même scène. J'ai tout de suite testé ça, c'est la première chose que j'ai testé. Et ça a tout de suite marché. Parce que moi, j'avais peur que ça fasse conceptuel ou que ça fasse onirique. Ça faisait ni conceptuel, ni théorique, ni onirique. Ça marchait à un niveau émotionnel. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais faire quelque chose. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à monter, à avancer et à trouver la durée juste. Le film dure une heure et quart, je crois même. C'était un processus de montage extrêmement étrange parce que c'était beaucoup de travail. J'étais complètement obsédé par ce que j'étais en train d'écrire en montage. Et c'était comme si on m'avait donné un disque dur, on m'avait dit, voilà, il y a des jeunes, ils font la fête sur une plage, ils répètent un film. Faisant quelque chose. Moi, je découvrais toutes les images tous les jours. Donc, chaque début de journée de travail était vraiment un plaisir. C'était que de la joie, en fait. Il y a eu des difficultés. Mais pas du tout comme les montages de mes autres films habituellement, où il y a vraiment des phases extrêmement dures, qui sont normales, hein, d'abattement, de « putain, c'est quoi ce film ? Où est-ce que je vais ?» Là, pas du tout. Je savais, dès les premiers jours, je savais où j'allais. Je savais quel était mon objectif, je savais ce que je voulais raconter. Il s'agissait juste de le faire. Mais le film existait déjà, était déjà là. Il s'agissait juste de se mettre au travail et d'avancer quotidiennement. Et chaque jour, j'avançais un peu plus. Je me réveillais le lendemain très excité, avec l'envie d'avancer un peu plus. Donc c'était 3 mois assez exceptionnels, d'évidence en fait. Ça m'est jamais arrivé sur... Alors ça m'est arrivé un peu sur La Dame au Chien.
Ah oui.
Quand j'ai monté La Dame au Chien, quand j'ai repris le montage de La Dame au Chien à la toute fin, où pendant des mois et des mois, j'ai travaillé sur des petits raccords et des choses comme ça. Donc il y avait une monteuse qui avait fait le film avant, mais ensuite j'avais repris tout seul parce que j'avais besoin de tester d'autres choses. Et ça, c'était aussi un processus de pur plaisir.
Le film s'appelle Lille, il est en salle. Merci Damien.
Merci
Nivelle.
Beaucoup.
Je voudrais juste, pour terminer, vite fait, faire deux annonces sur des festivals. Un, que vous connaissez bien d'ailleurs, deux annonces de festivals importants qui ont lieu simultanément cette semaine, ce qui est un peu dommage parce qu'il va falloir jongler entre ces deux festivals, donc ils ne sont pas dans le même périmètre géographique. Mais donc il y a le festival 7ème Lune, qui est le festival international des jeunes cinéastes. C'est la 11e édition qui a lieu au Méliès, à Montreuil, entre le 25 et le 29 avril. Et donc la particularité, c'est que les 15 films en compétition sont aussi bien des courts que des moyens, des longs-métrages. Ce sont des films qui viennent de tous les pays, qui ont une très grande force cinématographique. Ce sont de vraies découvertes à faire. Donc allez à Montreuil, et ces films récents seront accompagnés d'une carte blanche donnée à Catherine Breillat, avec plusieurs films projetés, La fièvre dans le sang, Désir meurtrier d'Imamura, Les dimanches de Ville d'Avray, et puis évidemment Une vraie jeune fille, son film. Voilà, donc ça c'est le festival 7ème Lune, et puis l'autre festival, événement, cette semaine, c'est le festival Format Court, organisé donc par la revue du même nom, passionnante revue sur l'actualité du court-métrage, 5ème festival Format Court, qui a lieu là aussi, donc entre le 25 et le 28 avril, mais au studio des Ursulines à Paris. La marraine est Florence Loraïcaille, à qui un programme spécial sera consacré jeudi soir à 19h pour l'ouverture du festival, avec notamment le film par lequel elle s'est fait connaître, qui est Seul d'Éric Zonka. Et il y aura 4 programmes de films en compétition, avec des cours assez passionnants, comme Pleure pas Mathilde de Mathilde Chavannes, Boléro de Nance, La Borde Jourda, qu'on avait reçu ici dans cette émission, Pas le temps de Camille Lugan, ou bien Le songe de Joseph de François Hébert. Voilà quelques films cités, également des programmes thématiques, un focus sur la ville de Paris, et les courts-métrages de la section Horizonti de la Mostra de Venise. Voilà, c'était 2 annonces, 2 recommandations pour Nuit américaine. Merci encore Damien Manivelle, donc Lille, notamment pour les Parisiens, hein, le reflet Médicis. Peut-être il y aura d'autres salles mercredi, on ne sait jamais.
Ouais, ça serait bien, mais je conseille d'y aller le plus tôt possible.
Ouais. Voilà, bah, dès aujourd'hui et dès demain. Voilà, merci. On se donne rendez-vous lundi prochain pour la table ronde critique mensuelle de Nuit américaine avec Benoît Badirico et Pierre Charpillaz. Et je remercie évidemment encore toute l'équipe technique avant le basculement sur Cause Commune, avec Alexandre Welbrook, Dariano Pitana, Luca Panture, Enrico Mastro Giovanni. Merci à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.